J'ai le plaisir de recevoir maintenant Hubert Haddad et Odile Carito. Le premier, on en a souvent parlé sur CFM Radio, dans ce même magazine consacré notamment au Festival Lettres d'automne en 2014 par exemple, mais avant ça aussi dans le Cercle de lecture de Confluence où son livre, son roman Le peintre d'éventail avait été chroniqué, fouillé, disséqué par l'équipe du Cercle de lecture. Il avait été choisi aussi par le prix la même année, le prix des jeunes du lycée Michelet. Chaque année, les jeunes du lycée Michelet choisissent un roman et ça avait été Le peintre d'éventail qui, cette année-là, en 2014 donc, ou peut-être l'année d'avant, avait été choisi par ces jeunes. Et donc, ils étaient aussi là, venus chroniquer ce livre sur les ondes de CFM. J'avais eu le plaisir de vous rencontrer, Hubert Haddad, à cette occasion-là de ce un festival littéraire qui vous était amplement consacré. Oui. Et c'est sur ce festival-là que vous aviez, si j'ai bien compris, rencontré Odile Carito, artiste plasticienne installée dans le Tarn-et-Garonne depuis de nombreuses années, que j'avais eu l'occasion aussi de rencontrer. Je dirais presque au siècle dernier, lorsque nous avions encore nos studios à Caussade et que vous étiez installé à Caussade, Odile Carito, vous aviez fait une exposition à l'époque dans cette petite ville du Tarn-et-Garonne. Merci d'être là. Merci. Pour nous présenter cette rencontre qui prend la forme d'un livre d'art. Sur le croisement donc de votre roman Hubert Haddad, oui. Le peintre d'éventail, et donc est-ce qu'on doit dire les illustrations d'Odile Carito.
C'est un livre d'art, donc c'est une création. Ouais. Ça fonctionne ensemble. À la limite, le texte serait plutôt ce serait plutôt le texte qui illustrerait les créations, les peintures d'Odile. Ça fonctionne un peu comme ça, alors que lorsque on a présenté au théâtre en 2014, il y a eu une mise en scène, une mise en voix du peintre d'éventail. Elle avait fait le décor, la scénographie, le décor, enfin. Comment ça s'appelait
bien dans le micro, s'il vous plaît, Berlin.
Des kakémonos.
Voilà, et c'était très, très, très beau. Et surtout que le vent venant des coulisses faisait osciller ces kakémonos.
Oui.
C'était vraiment très beau.
Qu'est-ce qui vous a attiré vers cette œuvre-là, Odile Carito, au départ, le peintre d'éventail, dites-moi.
C'est un livre que j'ai découvert bien avant les lettres d'automne 2014, puisque des amis me l'avaient offert. Connaissant mon attirance pour le Japon. Et bien sûr, il m'a de suite impressionnée, j'allais dire. Et impressionnée dans sa sagesse et dans le fait que la description du Japon me paraissait tout à fait juste. J'avais l'impression que Hubert était rentré dans la profondeur de la culture japonaise. Alors qu'à l'époque, il n'y était pas allé. Il avait compris.
C'est pour ça.
Oui, peut-être.
La sagesse n'a pas besoin de sac à dos.
Non, il a compris cette profondeur et cet esthétisme du Japon qui, à mon avis, développe un art qui est le plus important et le plus minimaliste. Ils sont rentrés dans le vif du sujet avec la simplicité la plus grande. Et puis, évidemment, le peintre d'éventail parle d'un vieux sage peintre. Et comme je suis une peintre, il m'a particulièrement attirée. Et ce vieux sage a eu deux disciples, enfin un disciple immédiat, qu'il n'avait pas cherché forcément d'ailleurs, puisque c'est le disciple qui s'est amené vers lui et qui a choisi son maître aussi. Oui. Et ensuite, la transmission s'est faite sur un deuxième disciple, un peu moins bien, un peu comme si les transmissions au fur et à mesure des passages perdaient de leur teneur. Mm-hmm. Et le Exui Han a un peu moins pris de la sagesse de ce vieux peintre. Voilà, c'est surtout ce qui m'a attiré dans ce roman, c'est la sagesse des personnages.
Comment s'est fait le travail en commun, finalement, puisque vous nous avez dit, Hubert Haddad, que c'était donc une œuvre commune, en quelque sorte.
C'est une œuvre commune, mais, tout le travail, c'est Odile et son éditrice qui l'ont fait. Il y a un découpage d'un certain nombre de pages, assez conséquent d'ailleurs, hein, finalement. Et puis, et d'ailleurs, il y a deux cahiers, un cousu, donc, qui est avec les grandes illustrations, les grands dessins, et puis un petit avec des haïkus. Tout ça dans un joli coffret. C'est singulier, d'ailleurs, ce travail. Jamais vu ce genre de choses. Et c'est une vraie réussite, mais c'est l'éditrice, comment s'appelle ?
Geneviève Andréa, qui est des éditions réciproques.
Qui fait toujours de très beaux livres. Oui.
Et Odile, qui ont vraiment œuvré. On s'était rencontrés une ou deux fois avec Odile pour en parler. Elle m'a montré son travail. Donc il y avait... j'étais ravi.
Pas frustré de voir votre texte amputé, en quelque sorte ?
Non, parce que d'une certaine manière, ce travail est une forme, est une lecture du roman, et par l'image, et bien cette lecture, elle est très riche, et l'image laisse imaginer ce qu'est le livre autrement. Il y a une rêverie. Un roman, c'est d'abord une rêverie close, qui, bon, on est dans un monde et puis on le traverse, et puis voilà. Tandis que là, ça, je pense que ça pourra donner aussi envie au lecteur d'aller voir le roman.
Le but, c'était ça, d'ailleurs, je le dis à la fin, dans la postface, c'est de donner envie au lecteur de lire le roman dans son intégralité. Ça, ce n'est qu'un petit passage.
Mais alors, et ce passage-là, c'est quoi ? C'est vos passages préférés à vous ? C'est votre émotion ? Comment vous avez fait le choix de ces passages ?
J'ai pris un parti parce qu'il était difficile de choisir des extraits dans le roman dans son entier. Donc le parti que j'ai pris, c'est de parler uniquement des trois personnages principaux, de la personne qui les loge, évidemment, parce que je ne pouvais pas faire l'impasse dessus.
Il y a une pension, c'est un personnage qui a eu un accident dans sa vie, débarque, s'en va et se retrouve dans cette pension. Il y a d'étranges personnages assez solitaires, et derrière la pension de la maison, il y a un jardin qui est extraordinaire, vraiment un jardin de pensée, si vous voulez, avec un vieillard transparent qui est là, qui travaille. Puis la nuit, on le voit derrière, parce qu'il vit là dans une sorte de cabane, on le voit peindre des éventails, et tout ça est très mystérieux. Et cet homme qui est venu d'une autre ville où il y avait eu autrefois aussi un tremblement de terre, eh bien, et commence à être attiré par cette figure-là qui va, qui vient. Et ce jardin lui paraît de plus en plus extraordinaire. Et le vieil homme va mourir, et Matabey deviendra est devenu le disciple de rien, et il va prendre sa place un peu. Tout ça dans un contexte très, très contemporain.
Oui, bah, tu as résumé ton livre, quand même.
Non, mais comme ça, on sait dans quoi, où ça se passe.
J'ai puisé uniquement dans le début du roman et dans la fin, puisque la fin, c'est la fin du disciple aussi, qui est assez catastrophique, mais bon, il supporte son destin avec
pourtant,
beaucoup
c'est pas,
de patience.
C'est ce qui, c'est au fond, à la fin, c'est qu'il y a Fukushima. Ils sont à 10 kilomètres de
Fukushima.
Oui, mais ça, on le sait pas tout le temps. On le sait pas. On est dans le jardin. On est dans. Mais qu'est-ce que c'est la pensée zen, la pensée c'est l'impermanence, c'est l'éphémérité. Donc on est en plein de manière aiguë là dans cette question là. Mais c'est pas, ça se termine pas avec Fukushima. Ça se termine pas avec le raz-de-marée. Ça tout est possible.
Il y a la transmission.
Il y a la transmission. Donc, c'est pas désespérant comme je
pense. Non, c'est vrai.
J'ai pas eu l'occasion de feuilleter ce livre d'art là, mais connaissant un peu votre travail, Odile Carito, vous donnez pas dans le figuratif.
Non, généralement non. Et comme je le disais hier à la rencontre, Hubert ne s'imagine pas à quel point il a pu orienter et changer le cours de ma, momentanément sans doute, hein, le cours de ma représentation en plastique. En fait, quand j'ai commencé à vouloir illustrer ce roman, ça a été, j'ai utilisé ma plastique, évidemment, et puis je me suis aperçue que c'était plat et ça ne donnait rien. Donc ça ne me satisfaisait pas. Et je me suis dit, finalement, quand tu es allée au Japon, que tu avais beaucoup de scènes au milieu des jardins et beaucoup de scènes dans les temples, puisque j'ai exposé là-bas et vu des Japonais qui vivaient, pourquoi ne pas utiliser ce que tu as vu figurativement et le transcrire en images ?
Elle connaît plus mieux le Japon que moi. Elle a plein d'images du Japon.
Oui.
Donc, c'est elle le maître.
Oui, c'est beaucoup d'images d'émotions que j'ai en plus. Donc, ouais. Ces émotions, elles devaient passer dans ce livre qui transporte beaucoup, beaucoup d'émotions.
Alors, Odile Carito, il y a ce livre, Le peintre d'éventail. Il voilà. Y a aussi une exposition.
Qui sera présentée ce soir.
Hein, qui va être présenté tout à l'heure.
Et puis l'exposition, elle va durer combien de temps ?
Et l'expo ? C'est une expo d'éventails.
D'éventails, oui.
Ces éventails que vous avez peints, ce sont. L'inspiration, elle est là aussi du peintre d'éventails ou elle est à l'image des protagonistes du peintre d'éventails sur la nature, sur le zen, sur...
C'est les deux. Mm. J'ai commencé à les produire et à les peindre d'ailleurs pendant le temps des lettres d'automne 2014. Mm-hmm. Après avoir fait cette scénographie et après la lecture, je me suis dit, tiens, il m'intéresse tellement ce livre et... Il me prend tellement aux tripes que pourquoi ne pas faire des éventails ? Alors, je me suis procuré des supports, de vrais éventails, et puis des éventails sur papier sur lequel la forme est reproduite. Et j'ai commencé à peindre. Alors là, le commencement a changé, c'est-à-dire que Hubert a dû m'inspirer sans doute et est arrivé une palette de couleurs totalement incongrue pour moi, parce que je n'utilisais pas du tout ça, et ça m'est venu naturellement. Je n'ai rien fait pour réfréner ça. Je me suis dit, après tout, si ça arrive, c'est que ça doit être comme ça. Voilà. Et de là est parti tout un travail qui a duré un ou deux ans à peu près sur les éventails. Donc je montre ce résultat. Et le temps de la construction des illustrations aussi. Que je montre tout ça à la petite comédie.
Et alors un mot pour ma culture générale personnelle, la peinture d'éventails, est-ce que c'est un art développé au Japon
Dans le Japon traditionnel, oui. Bon, y a quand même toujours une pratique. De toute manière, les Japonais restent très traditionnels. Sous des dehors de modernité, ils conservent quand même ces traditions très ancrées dans leur quotidien. Et alors, les jeunes, je ne sais pas s'ils pratiquent... beaucoup la peinture sur éventail, mais de toute façon, on en voit régulièrement, oui.
Donc voilà, c'est un art avec ses codes, avec sa raison d'être, quoi.
Oui.
Donc, rendez-vous, ça c'est à la Petite Comédie, visible cette expo-là jusqu'au 21 février, je crois. Il y a une autre expo de vous, mais on en reparlera à la mémo en même temps. Et puis, on va s'attarder, si vous voulez bien, sur la rencontre de tout à l'heure à la Femme Renard. Donc, cette grande librairie indépendante située au centre-ville de Montauban. Donc, vous y présenterez Hubert Haddad, un monstre et un chaos. Mmh. C'est votre dernier roman.
Exactement. Il est paru il y a quelques mois. C'est le monde yiddish que j'ai exploré. Un monde disparu, anéanti par le nazisme. J'ai voulu explorer ça. Ça se passe dans ce qu'on appelle un tchetel, un petit bourg, et où il y a la vie traditionnelle avec le monde de Chagall, un peu. Et puis finalement, l'histoire s'est imposée. Moi, c'était la fin de 1939, enfin septembre 1939. Il y a l'invasion de la Pologne. Tout s'est mis en marche. Il y a un des jumeaux qui est tué. L'autre s'enfuit et court à travers la Pologne, se cache et va se retrouver finalement à Lodz, où là, il y a ce ghetto. De Lodz, qui est le deuxième grand ghetto de cette période, et après Varsovie, mais qui est tout à fait singulier, parce qu'il sera entièrement clos, il y aura un personnage, le doyen, les nazis systématiquement déléguaient leur pouvoir. parce qu'il ne pouvait pas s'occuper de toutes ces... C'était des villes entières. On prend tous les Juifs qui ne sont pas partis, qui n'ont pas déjà été tués, on les met dans un quartier de Lodz, et ça fait quand même 180 000 habitants. C'est une... Et puis, ils vivent vraiment dans un espace très, très fermé, avec la décision, l'idée, c'est ce sont des lieux de rétention avant extermination, avant d'aller à Chemnau, à Auschwitz. Et là, il y a une vie qui se passe. Ce sont des gens mis en esclavage, et ils se trouvent par donc, le douanien, Chaim Rimkowski, qui est un personnage extravagant, une sorte de Falstaff, une sorte de Père Ubu, qui se prend pour un chef, pour un roi. On l'appelait le roi Chaim, et qui va faire des... édicter des lois, même faire une monnaie pour le ghetto, et même faire des timbres à son effigie pour qu'on lui envoie des poèmes à son anniversaire. Un type insensé. Et il va réussir à tenir le ghetto pendant une année de plus qu'ailleurs. Il va mettre tout le monde en esclavage. C'était le textile à Lodz, c'est l'industrie textile. Il y aura 100 usines qui tourneront en permanence, et ça fournira des trains entiers de vêtements, de jouets pour les enfants allemands qui partiront. Et eux, en échange, ils auront des patates, des rutabaga. Qui leur donneront en échange, et ils survivront comme ça dans la famine, avec évidemment les maladies, un tiers dans les ghettos mourrait de faim. Mais enfin, il y a toujours mon petit personnage, mon petit enfant, et puis il y a tout ce monde qui vivait toujours cette résistance par l'art, par le théâtre. Et il se trouve qu'il va rencontrer un vieux marionnettiste. Et puis, il va devenir lui-même marionnettiste, cet enfant, les années passent, et il va créer une marionnette à l'image de son frère disparu, c'est-à-dire à son image. Et là, je raconte pas plus.
Eh ben là, vous ne rencontrez pas plus. Et puis, on viendra vous rencontrer ce soir, à partir de 19h, à la Petite Comédie, pour ce roman, votre dernier roman.
C'est à la librairie.
Qu'est-ce que j'ai dit ? À la Petite Comédie, non, pardon, à la Femme Renard. Oui,
à la Femme Renard.
Effectivement, c'est pas très loin. S'il y en a qui se trompent, ils seront vite réaiguillés. Un monstre et un chaos, ce soir, 19h, à la Femme Renard. Si vous nous écoutez un petit peu après midi, qu'il est bientôt midi 30, c'est que c'était hier soir. La rencontre, c'est très, très bien passé, il y avait beaucoup de monde.
Oui.
Hein, c'était très bien. L'exposition d'Odile Carito, toujours à voir, alors là, pour le coup, à la Petite Comédie, et puis également à la Mémo. Comment s'appelle l'autre expo à la Mémo, rapidement ?
L'invitation de la Dame.
Voilà, puis on en reparlera. D'accord ? Je viendrai vous voir au cœur de l'expo, et puis on fera une rencontre autour de ça, Odile Carito. Hubert Haddad, Odile Carito, merci d'être venu
en parler.
Merci
beaucoup. Merci.
Au revoir.